Je m'appelle
dans
la vidéo,
si
tu peux m'envoyer sur WhatsApp. Ça marche. Tu m'envoies sur
WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Dans la bataille de Badr, dans la biographie prophétique, on s'est arrêté au moment où les deux armées se font face. Donc on a expliqué la semaine dernière, et on a rappelé la semaine dernière, que la stratégie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'ils sont moins nombreux, moins puissants, moins armés, c'est de tenir les positions et de jouer sur le temps et la défense. Et pendant qu'Abu Jahl, lui, en face, avec son armée idolâtre, lance l'offensive générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux compagnons de rester fermes sur leur position et de viser avec leurs flèches les idolâtres qui arrivent vers eux, mais de ne tirer qu'au moment où ils sont sûrs qu'en fonction de la distance, ils peuvent toucher, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de flèches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut économiser les flèches et impressionner les idolâtres en face. Et donc, la conséquence de cela, c'est que les idolâtres sont amenés à faire des allers-retours. Et ils arrivent en courant, et ensuite ils sont freinés par les flèches, ils voient des gens tomber parmi eux à cause des flèches, donc ils sonnent la retraite. Ensuite ils se regroupent, et une fois de plus, on sonne l'attaque générale, et ainsi de suite. Et donc les idolâtres sont éreintés, ils sont fatigués par tous ces allers-retours. Et c'est donc la stratégie justement des musulmans. Et lorsqu'enfin on les trouve cuits à point, l'armée des idolâtres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il ordonne à son armée d'attaquer, de contre-attaquer. Et c'est à ce moment-là aussi que va coïncider le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la révélation qu'il informe qu'Allah azza wa jalla lui envoie un groupe d'anges pour le soutenir. À un tel point que des témoignages concordants, que ce soit des témoignages qui nous sont provenus de l'armée des musulmans ou de l'armée des idolâtres, disent qu'on voit des soldats idolâtres tomber, se faire trancher les mains, les têtes, sans qu'on voit qui les a frappés. Une force invisible. Et nous, on sait, à travers la révélation, que ce sont les anges. Ala kulli hal, et même à ce moment-là, on avait expliqué que Suraq ibn que Shaytan, l'anatullahi alayhi, il avait pris la forme de Suraq ibn Malik, la forme humaine de Suraq ibn Malik, et lui, en réalité, c'est Shaitan. Et donc, quand il voit les anges, il fuit. Les idolâtres le voient fuir. Pour eux, ils ne savent pas que c'est le diable. Pour eux, c'est Suraqa. Puis ils disent, tu vas où, Suraqa? C'est toi qui nous as dit qu'il fallait tenir jusqu'au bout. Pourquoi tu fuis alors que la bataille vient à peine de commencer? Et il va leur dire, moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Et il va aller se réfugier dans l'océan. Naam. Ici, il faut imaginer que les musulmans, en particulier les musulmans de la Mecque, ils se retrouvent face à face avec des gens de leur famille, avec des gens qui étaient leurs voisins, avec des gens qui peuvent être leurs frères, leurs fils, leurs oncles, etc. On a plusieurs exemples comme ça. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il va se retrouver face à face, nez à nez, avec son propre fils, Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il va même lui dire, selon des textes, « Aïna mali ya khabif, où as-tu mis mon argent ?» Mauvaise personne, khabif. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il a fait la hijra, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il avait pris ce qu'il avait besoin, il avait laissé à sa fille Aïcha et à sa fille Asma ce dont ils avaient avoir besoin pour le restant des jours qu'ils allaient rester à la Mecque. Sauf que lui, quand il a entendu, puisqu'il était hostile à l'islam, il a entendu que son père avait fait la hijra, secrètement il est venu, il a tout récupéré, il a tout pris. Il a dévalisé la maison de son père, Yarni. C'est pour ça, si on n'a pas ce contexte-là, on ne comprend pas pourquoi, au plein milieu de la bataille de Badr, la première chose que le père lui dit, « Aïna mali ya khabith, où tu as mis mon argent ?» Khabith, na'am. On a aussi l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a eu, lui, une très grosse épreuve. Lui, il a eu à faire face à son oncle maternel, le frère de sa mère. Et ils se sont combattus. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a été obligé de tuer son propre oncle maternel. Mais quand on parle de bataille, la bataille de Badr, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce que souvent, on parle de la bataille, on a l'impression, voilà, il y a les musulmans d'un côté, les ennemis de l'autre qui les ont persécutés, c'est vrai. Mais après, chacun a son histoire individuelle et il se retrouvait nez à nez avec des gens qui lui sont proches, avec qui il a aussi de bons souvenirs, avant qu'il se convertisse à l'islam, avec qui il y avait des liens de parenté, de voisinage, d'amitié, de fraternité, etc., etc. À un tel point que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il verra son cousin, qui est le fils de son oncle, qui l'a tué, et qui est en même temps son beau-frère, il est marié à la sœur de Omar, Saïd ibn al-As, radiallahu anhu, qui fait aussi partie d'ailleurs des 10 compagnons promis au paradis, à la kulli hal, à chaque fois qu'Omar le verra, il sentira que depuis la bataille de Badr, il y a une sorte de froid entre eux. C'est normal. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais Saïd ibn al-As est musulman, donc il ne peut rien dire. Il a en face de lui son cousin qui a tué son propre père. Et un jour, Omar, radiallahu anhu, va lui dire « Je sens que depuis la bataille de Badr, et depuis que j'ai eu à faire ce que j'ai fait, il y a quelque chose dans ton cœur, à mon encontre. Sache que je n'ai pas tué ton père. » Kif, Yarni, tu l'as tué. Il va expliquer. Il dit, sache que je n'ai pas tué ton père, mais j'ai d'abord tué mon oncle. Mets-toi bien ça dans la tête. Il ne faut pas penser que c'était facile pour moi. Moi, j'ai tué mon oncle. Toi, tu le ressens parce que c'est ton père. Moi, je ressens, c'est mon oncle. Je l'aimais comme un oncle. Mais on a été retrouvés dans cette situation où je n'ai pas pu faire autrement. Il y a énormément d'autres exemples comme ça. On a Hudayfa, qui lui a vu d'un seul coup dans les duels son père, son oncle et son frère mourir. Puisque Hudayfa, c'est le fils de Utba ibn Rabi'a. Et c'est le frère de Walid ibn Utba. Et c'est le neveu de Shayba ibn Rabi'a. Et tous les trois, c'est les trois qui vont mourir dans les duels. Contre Hamza ibn Abdul Muttalib, Ali ibn Abi Talib et Ubaida ibn al-Harith. Naam. Et les traits de son visage vont changer, évidemment. Il voit d'un coup mourir son oncle, son père et son frère. Et il va avoir une tristesse sur son visage jusqu'à la fin de la bataille. Et même au moment, on va l'expliquer plus tard, lorsque le prophète Hassan devra trouver une solution pour les cadavres des idolâtres, et qu'il verra, qu'on prendra les corps de son père, de son frère, de son oncle, il baissera la tête et on verra chez lui la tristesse. Le prophète sallam ira et il va le prendre à part et il va le réconforter, il va le consoler. L'Yanna, c'est quelque chose d'humain. Cette épreuve, elle est extrêmement difficile. Même si ce sont des compagnons, même si. Et ça, c'est un aspect de la bataille de Badr qu'on oublie souvent. On parle de la bataille de Badr, et on dit, voilà, mashallah, c'était un grand triomphe pour les musulmans. Et on oublie que, certes, c'était un triomphe pour eux, mais d'un autre côté, c'était un grand chagrin aussi et un grand deuil. Na'am. Le prophète avait donné des consignes. Et il avait demandé d'épargner la vie de Hakim ibn Hizam. Il avait demandé d'épargner la vie de son oncle Al-Abbas. Il avait demandé d'épargner la vie d'Abu al-Bakhtar ibn Hisham. Pourquoi ? Et d'autres ? Parce que ces gens-là, même s'ils sont hostiles à l'islam et aux musulmans, ils se sont illustrés par deux choses pendant la période mécoise. La première, c'est que leur hostilité n'a jamais été dans les coups, dans la violence, comme ça l'était pour les autres. Les autres, ils torturaient, et même ils ont tué des musulmans. Alors qu'eux, ils étaient hostiles, mais ils étaient de ceux qui étaient hostiles en disant « On ne veut pas de cette religion parmi nous, dans notre ville, chassons-les, expulsons-les de la Mecque et n'en parlons plus. » Alors que les autres, ils disaient « Non, on doit les emprisonner, on doit les persécuter, les torturer à mort tant qu'ils refusent de changer de religion. » Et aussi, la deuxième façon dont ils se sont illustrés, c'est lorsqu'il y a eu la mise en quarantaine, ils ont contribué à faire annuler la mise en quarantaine. Quand ils ont mis en quarantaine les musulmans, plus le droit de commercer, plus le droit de vendre, plus le droit de se marier, plus le droit de parler avec quiconque, et que ça a duré pendant des mois à tel point que les musulmans ont eu à manger des feuilles, des arbres, tellement ils n'avaient plus rien à manger, ce sont des idolâtres, comme Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, puisque là, il n'est pas encore musulman, mais il va le devenir, et comme Abu al-Bakhtari, Ibn Hisham, mais là on ne peut pas dire radiyallahu anhu parce qu'il ne se convertira pas à l'islam, mais ils ont contribué à l'annulation de la mise en quarantaine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les cite dans ceux qu'il faut éviter de tuer si on doit livrer bataille contre eux. Et Abu al-Bakhtar ibn Hisham va quand même mourir dans cette bataille. Pourquoi ? Les compagnons vont se retrouver face à lui et il est là avec un homme, Abu al-Bakhtar ibn Hisham, et il fait face aux musulmans. Les musulmans lui disent « Mets-toi sur le côté. Nous avons reçu un ordre du prophète sallam qui est « Nous ne pouvons pas te combattre ni te faire du tort. Donc mets-toi sur le côté et laisse-nous livrer bataille. Dépose les armes, tu as la vie sauve. On ne peut rien te faire. » Abu al-Bakhtar ibn Hisham, il leur dira « Ça me va à une condition. Mon ami, lui aussi, vous lui laissez la vie sauve. » Il y avait son compagnon avec lui, son ami. Les musulmans, ils ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. Toi, oui. Pour lui, on n'a reçu aucune consigne, ce serait trop facile. Abu al-Bakhtar ibn Hisham, il va leur dire dans une rime, dans un vers poétique, « Lan yuslim ibn hurratin zamila, hatta yamuta aw yara sabila » Le fils de la femme libre, en parlant de lui. Le fils de la femme libre, c'est pour se donner une importance. Le fils de la femme libre ne livrera jamais son ami. Il ne trahira jamais son ami. Hatta yamuta aw yara sabila. Jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il voit son chemin, yani, qu'il arrive à trouver une solution, qu'il arrive à s'en sortir. Jamais je ne le trahirai. Et donc ils n'auront de choix que de livrer bataille contre lui. Et ils vont devoir à un moment le tuer. Et ils vont l'expliquer au professeur Salim. Et le professeur Salim va dire khlas, si vous n'avez pas eu le choix, vous n'avez pas eu le choix. Mais ici, on voit aussi la mentalité tribale. Cet homme a été capable, même si c'est un idolâtre, d'aller jusqu'à sacrifier sa vie. Pourquoi ? Pour défendre son ami. Et on a vu aussi que le Walid, que Utba ibn Rabi'a, qui n'était pas convaincu par cette guerre, quand Abu Jahl va juste lui dire « Tu es un lâche. Ton fils est en face, c'est pour ça que tu veux plus livrer bataille. » Et là, son cerveau il va se retourner, alors qu'il était en train d'essayer de convaincre les gens de repartir, et il va dire « Tu vas voir, toi, je ne répéterai pas l'insulte qu'il lui a dit, toi, un tel, tu vas voir lequel d'entre nous est le plus lâche. » Et il va appeler en duel contre lui, contre son frère, contre son fils, et ils vont mourir dans ce duel. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que ça nous permet de comprendre aussi pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi ce contexte, ces tribus-là, pour recevoir la dernière des révélations et le dernier des prophètes. Parce qu'ils ont aussi des valeurs auxquelles ils tiennent. À un tel point qu'on a des histoires de la jahiliya, ce qu'on appelle « Ayyam al-Arab ». Nous, on étudie l'histoire de la civilisation musulmane à partir du prophète sallam Ouzid, jusqu'à nos jours. Mais avant ça, on a ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, l'histoire des Arabes avant, comment ils vivaient. Et ça nous est relaté à travers quoi ? Principalement à travers les poèmes qu'on connaît encore aujourd'hui par cœur. Les poèmes de Mourou al-Qais, les poèmes de Samaoual, les poèmes de Ibn Abi Salma et d'autres. Antar ibn Shaddad. Antar ibn Shaddad. Naam. Et dans tous leurs poèmes, il y a ces valeurs-là qui ressortent. On peut faire chacun de ces poètes, on aurait d'innombrables exemples. On va se contenter juste d'eux, d'un chrétien arabe de l'époque de la Jahiliya, qui s'appelait Samaoual. Samaoual, il avait une forteresse qui était extrêmement protégée par des remparts et des murs. Le grand poète Imru'ul Qais, il était fils de roi. Et sa tribu, elle a été attaquée par une tribu rivale et ennemie. Ils ont attaqué par surprise. Et Imru'ul Qais a réussi à s'enfuir. Et il est parti se réfugier chez son allié, Samaoual. Il lui a dit, tous les nôtres ont été tués. Mon père, il a été tué. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Mais j'ai réussi à récupérer certaines richesses et surtout des boucliers qui vont nous être précieux pour ma vengeance. Mais je n'ai plus assez d'hommes. Et mon père, qui était roi, était allié avec le César de l'époque. Donc je vais aller jusque à Constantinople pour demander l'aide de César, pour qu'il me donne des hommes et des armes. Mais je ne peux pas me trimballer avec tout ce que j'ai pris comme richesse et comme bouclier. Est-ce que tu peux, toi, Samaoual, les garder dans ta forteresse le temps que j'aille chercher de l'aide et que je revienne? C'est une amana. Ce que nous, on appelle, on parle tous les jours de l'amana, nous, les musulmans. Mais est-ce qu'on respecte vraiment l'amana? Regarde, écoute, ce chrétien de la Jahiliya, c'est quoi pour lui l'amana? Samaoual, il va lui dire, tes boucliers, est-ce que tu laisses comme richesse sont chez moi? Et personne ne les approchera tant que je serai vivant. Il va partir Imru'ul Qais. Sauf que sa tribu ennemie, quand ils vont entendre qu'Imru'ul Qais est parti chercher de l'aide à Constantinople. Constantinople, c'est la ville qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Avant, ça s'appelait Constantinople. Ils vont faire quoi, cette tribu? Ils vont aller attaquer la forteresse de Samaoual. Mais Samaoual, sa forteresse, elle n'a jamais été prise. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'assiéger et d'attendre que le temps y passe. Mais ils ont assez de quoi survivre pendant des années. Et donc, ils sont à l'extérieur de la forteresse, et Yannis Samaoual, ils travaillent sur leurs champs, etc., avec leur bétail, et il y a quelqu'un, un éclaireur, qui vient et qui leur dit, vite, les ennemis de Imru'ul Qais arrivent, ils veulent nous attaquer. Donc, on sonne l'état d'alerte générale, et tout le monde se réfugie dans la forteresse. Samaoual, il se réfugie, il fait fermer les portes de la forteresse. Sauf que, lui et sa femme, qui étaient à l'extérieur en train de travailler sur leur champ, ils ont un jeune enfant, un bébé, qui s'amusait comme ça sur le champ. Et dans la panique, ils ont demandé à tout le monde de rentrer, ils sont rentrés, ils ont refermé les portes et ils ont oublié leur enfant. Et au moment où ils ont voulu aller le récupérer, trop tard, l'armée rivale est arrivée. Ah, mouchki là. Du coup, les ennemis, ils ont dit, ah, ça c'est très bien. La forteresse, on ne pourra jamais la prendre, mais on a son fils. Donc ils vont dire à Samaoual, écoute, c'est simple. Tu as les boucliers, on ne veut pas de guerre avec toi. Tu as les boucliers, les richesses de Imru'ul Qais. Tu nous les remets et tiens ton fils. Ton fils, il vaut quand même plus cher que les boucliers. Donne-nous les boucliers, il comprendra ton ami, Imru'ul Qais. C'est pour sauver ton enfant. Sinon, sans aucune pitié, nous tuerons ton enfant. Samaoual va leur dire, tuez-le, brûlez-le, déchirez-le, faites ce que vous voulez. Mais cette amana, j'ai donné mon engagement, personne ne la touchera. Elle est agile. Et ils vont tuer son enfant. Et il ne va pas rendre les boucliers. Et on peut même dire, même peut-être un peu pour rien, si ce n'est pour la postérité, puisqu'on en parle aujourd'hui, parce que Imru'ul Qais, finalement, il va aller voir César, et c'est une autre histoire dans laquelle je ne vais pas rentrer. Imru'ul Qais, il va tomber amoureux de la fille de César, et donc César, ça ne va pas lui plaire. À la kulli hal, quand il va retourner, César, il va lui faire penser que c'est bon, je vais t'aider, et en fait, il va l'empoisonner. Et il va mourir en route, sur la route du retour. Donc finalement, il ne récupérera jamais cette amana. Mais en tout cas, Samu Ali, il ira jusqu'à ce point-là, à un tel point qu'ensuite il va faire un poème dans lequel il voudra éterniser cet acte qu'il a fait. Il y a même une expression arabe aujourd'hui, en arabe littéraire, qui dit « Aoufa minas Samu Al ». Être plus loyal que Samu Al. Quand quelqu'un, mashallah, il nous épate dans sa façon d'être loyal envers ses amis ou ses engagements, eh bien, on prend cette expression, on dit, lui, il est encore plus loyal que Samu Al. Pour être plus loyal que Samu Al, il faut y aller. Et donc, quand on veut faire les éloges de quelqu'un dans sa loyauté, on dit, lui, Aouva mina Samu Al. Il est plus loyal que Samu Al. Samu Al, il dira dans ce poème, إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى به للعلا وكهول وما ضرنا أن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل. Et ensuite il termine par dire وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. Et il y a encore d'autres rimes, mais on va s'arrêter déjà juste sur celle-ci. Il dit إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. Si l'individu n'est pas souillé par le blâme, par le reproche, par la critique, dans ses parures, dans ses vêtements, eh bien, tout vêtement qu'il mettra sera beau. Peu importe ce qu'on dit à ton sujet, tant qu'on n'a pas critiqué ton honneur, tant que tu as montré que tu es quelqu'un d'honorable, de fier, que tu vas jusqu'au bout de tes engagements, t'inquiète pas pour le reste. Tous les autres défauts seront une beauté pour toi. Ce sera quelque chose qui va t'embellir. وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلٌ. Et si l'individu ne supporte pas l'injustice qu'il y a sur terre, s'il n'est pas capable de faire face à l'injustice, de supporter l'injustice, jamais on ne pourra faire ses éloges et son compliment. S'il veut avoir des compliments et des éloges, il faut qu'il passe par là, par subir, par supporter ce qui est insupportable, comme lui il l'a supporté, la mort de son fils, pour garder la amana de quelqu'un. تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. On nous critique et on nous dit mais vous êtes peu nombreux, comment vous allez faire pour vous défendre? Et moi je leur dis ben justement, les gens valeureux et honorables, ils sont peu, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup nous. Tu sais pourquoi? Parce que les gens bien, ils sont peu déjà à la base. Donc ça tombe bien. وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول. Et en vérité, les gens qui sont comme nous, ils ne sont jamais peu nombreux. Parce que nous sommes des jeunes et des plus âgés qui atteignons les sommets, les hauteurs. Et ça peu importe notre nombre, en vérité, ça veut dire qu'on est nombreux, même si on n'est pas beaucoup. Parce que ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. C'est ça qu'il veut dire. وما ضر أن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. Et ça ne nous fait aucun mal de savoir qu'on est peu nombreux tant que nos jar ici c'est pas dans le sens voisin mais dans le sens protégé. En arabe, le jar ça peut vouloir dire le voisin et ça peut vouloir dire celui à qui on offre la protection. Et donc il dit tant que nos protégés, ceux à qui on s'est engagé à donner la protection, ils sont puissants parmi nous. وَجَارُ الْأَكْثَرِينَ ذَلِيلُ. Et les protégés de la plupart des gens, ils sont humiliés parce qu'on les livre facilement. Mais nous, on n'est pas comme ça. Notre protégé, il est puissant. Personne ne peut le toucher. Naam. Et ensuite, il dit وَإِنَّا لَقَوْمٌ لَا نَرَى الْقُتْلَ أَفَنْسَيْدِ لَنَا جَبَلٌ يَحْتَلُّهُ مَنْ نُجِيرُهُ مَنِيعٌ يَرُدُّ الطَّرْفَ وَهُوَ كَلِيلٌ. Nous avons une montagne. Il compare la forteresse à une montagne. Sa forteresse, il la compare à une montagne. Là, une montagne, c'est difficile d'arriver au sommet. Il dit, ben, nous, nous avons une montagne. Alors que c'est qu'une forteresse, c'est pas une montagne. Nous avons une montagne dans laquelle habite celui à qui nous donnons protection. Et nous nous engageons de lui donner notre protection. Et cette montagne, elle est, on ne peut pas l'atteindre. Non seulement on ne peut pas l'atteindre, et en plus elle rejette les regards. Ce n'est pas juste tu vas essayer de l'atteindre et tu ne vas pas arriver. Quelqu'un qui passe, chauffe la métaphore qu'il fait, chauffe l'excès dans lequel il va. Il dit quelqu'un qui passe à côté de notre forteresse, de notre montagne, et il regarde juste comme ça, il n'arrive plus après à regarder. Juste les regards, il les rejette. Personne n'ose regarder notre forteresse. Alors Zama, il va venir et il va essayer de prendre la forteresse. Même s'il faut se fatiguer, si la montagne elle doit se fatiguer, une montagne ça ne se fatigue pas. Et pourtant, il lui dit, même si elle doit se fatiguer, elle continuera à le faire. Rasa asluhu tahta thara wa sama bihi ila najmi far'un la yunalu tawilu. Cette forteresse, cette montagne, elle est enracinée dans le sol. Ses racines, elles sont dans le sol. Et ses branches, elles atteignent les étoiles. Personne ne peut atteindre le sommet qui atteint les étoiles. Et ensuite, il dit « Wa inna laqawmun la nara al-qatla subbatan idha ma ra'atu amirun wa salulu » Et nous sommes un peuple. On ne voit pas dans le fait d'être tué un mal. Au contraire, c'est une valeur, ça, c'est quelque chose de bien. Être tué par quelqu'un, on n'a rien fait de mal. Si on est menacé, on est tué. C'est quelque chose de bien pour nous, il dit. إذا ما رأته عامر وسلول, il cite ses tribus rivales, la tribu des Amir et des Salul, pour les rabaisser. Il dit, eux, oui, eux, ils pensent qu'être tué, c'est un mal. Alors ils fuient à chaque fois qu'il y a un combat. Nous, non. Pour nous, c'est une fierté. نعم. Et ensuite, il dit, pour terminer, يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. L'amour de la mort, عجيب ce qu'il dit ici. يقرب حب الموت آجالنا لنا. L'amour de la mort, il rapproche notre mort. Il dit, on aime la mort et la mort, elle nous aime. Et c'est ça qui fait que nos vies à nous, elles sont courtes. Parce que, comme ils sont souvent dans le combat et qu'ils vont jusqu'au bout, ils meurent vite, ces gens-là, dans le combat. Il dit, en vérité, il ne faut pas regarder les choses comme ça, c'est parce que nous, on aime la mort et la mort, elle nous aime. Et donc, comme on s'aime, eh bien, la mort, elle vient vite à nous. Il dit par contre les autres, nos ennemis, nos rivaux, وَتَكْرَهُهُ أَجَالُهُمْ فَتَطُولُ. Leur ajal, leur délai de vie, ils les détestent. La mort les déteste, c'est pour ça qu'ils vivent longtemps. C'est pas parce que c'est des gens bien, ou c'est parce que c'est des gens qui ont réussi à échapper à la mort. C'est parce que la mort, elle les déteste. Mais nous, on meurt vite parce que la mort, elle nous aime, parce qu'on est des gens bien, on est mieux que vous. Voilà comment il fait son explication là. Ajib. Et ça, c'est pour montrer le contexte et la mentalité des Arabes de l'époque. Et ces gens-là, comme Abu al-Bakhtar ibn Hisham, qui n'a pas voulu livrer son ami, il a voulu être à la hauteur de ça. Mais il en est mort. Et ensuite, après Abu al-Bakhtar ibn Hisham, il y a Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, c'est l'ancien maître de Bilal. Et Umayya ibn Khalaf, et on va s'arrêter sur lui, si vous vous rappelez, c'était celui qui ne voulait pas aller à la bataille de Badr. Parce que le prophète lui avait prédit qu'il allait mourir, qu'il allait être tué en dehors de Mecca. Et il avait dit à sa femme, je sais que cet homme ne ment pas en parlant du prophète, donc plus jamais, jusqu'à la fin de mes jours, plus jamais je ne sortirai de la Mecque. Comme ça, sa prévision, elle ne se réalisera pas. Puisqu'il a dit que je vais être tué à l'extérieur de la Mecque, eh bien moi je reste à la Mecque. Sauf que quand Badr est arrivé et qu'il s'est installé, sur son fauteuil, même si les fauteuils n'existaient pas encore à l'époque, c'était différent. Mais il s'est installé confortablement en voyant tout le monde se préparer. Abu Jahl, il lui a envoyé son ami Uqba ibn Abi Mu'ayt lui dire, il va oser ne pas partir. Et lui a ramené l'encens à la femme. Les femmes, à l'époque, elles prenaient une sorte de cendrier avec lequel se parfumaient avec de l'encens pour leur mari, pour la maison, etc. Et il a ramené ça. Alors que ça, c'est comme si tu ramenais une boîte de maquillage aujourd'hui, un homme, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bouge, c'est pas pour, moi je suis un homme. Et donc il ramène ça, et devant tout le monde, et il le met devant lui, il lui dit, hack, allez. Et il l'a allumé, il y a le bror, il y a l'encens. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu le mets devant moi? Et lui dit, stajmir innama anta min an-nisa, allez, encense-toi, parfume-toi, tu ne fais que partie des femmes de toute façon, puisque j'ai entendu dire que tu vas rester ici. Et là, il se lève. Moi, une femme, c'est ce qu'on va voir. Yallah, il appelle toute sa tribu, allez, on y va. On va leur montrer c'est qui la femme. Et sa femme, elle va lui dire, mais tu vas où? T'avais dit que si tu sors de la Mecque, tu vas être tué. Il va dire, t'inquiète pas. À chaque fois que j'aurai l'occasion de ralentir, je vais ralentir. Jusqu'à un moment, je vais trouver une raison pour revenir à la Mecque. Ma chamelle, elle est trop lente ou quoi. Mais c'est juste pour leur montrer que je ne suis pas une femme, que je suis courageux. Et à chaque fois qu'il essaye de ralentir, Abu Jahl, il le surveille. Il vient le voir. Ça va pas, Umayya ibn Khalaf? T'as un souci? Ah non, ça va très bien. Yallah, allez, on y va. On va voir. Jusqu'à ce qu'il arrive à Badr et qu'il ne peut pas faire demi-tour. Mais lui, il a peur de mourir. Et donc, dès qu'il voit son ancien ami qui est musulman, Abdurrahman ibn Aouf, radiyallahu anhu, il lui dit, Abdurrahman, on était amis. Et moi, je ne suis pas n'importe qui. Je vaux beaucoup d'argent. Fais-moi prisonnier. Et tu me libéreras contre une rançon. Abdurrahman ibn Aouf, il dit, ça me va. Et on était amis, donc je vais préserver ta vie. Sauf que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, qui était son ancien esclave, qui était persécuté, torturé par cet homme, il ne le voit pas de cet œil-là. Et donc Bilal, il va le voir, il va dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Abdurrahman, il va dire, je lui ai donné ma protection. Personne ne peut le toucher. Bilal, il va dire, non. La najawtu in naja. Je ne peux avoir la vie sauve si lui, il a la vie sauve. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y en a un de nous deux qui doit mourir. C'est impossible que nous deux, on va rester vivants après cette bataille. Soit lui, soit moi. Bilal, il a subi avec cet homme. Et donc, comment cette confrontation entre Bilal et Umayya ibn Khalaf va se passer, ça c'est ce qu'on verra dimanche prochain, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.